Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez la revue 2023 des inondations à l'initiative du groupe de recherche ARI-Action de l'Université de Montréal. Mon nom est Emmanuel Campo. Je m'occupe du développement d'outils de communication numérique et je vous guiderai tout au long de cette discussion. Ce balado est un projet pilote, un laboratoire, pourrait-on dire. Notre but est de documenter les événements marquants de cette année en matière d'inondations, comprendre pourquoi elles ont eu cette gravité et voir quelles sont les meilleures pistes de réflexion pour nous assurer d'un avenir plus résilient. On a enregistré cette conversation le 15 septembre dernier avec trois professeurs que je vais laisser se présenter.
Mon nom est Pascal Biron, je suis professeur au département de géographie, urbanisme et environnement à l'Université Concordia. Je suis hydrogéomorphologue, c'est-à-dire que j'étudie la dynamique des rivières, ce qui inclut évidemment les inondations.
Bonjour, je suis Isabelle Amaral. Je suis professeure agrégée et directrice à l'École d'architecture de l'Université de Montréal. Je m'intéresse notamment à la construction d'un point de vue esthétique, culturel, d'un point de vue de durabilité.
Isabelle Thomas, je suis professeure à l'École d'urbanisme et d'architecture du paysage de l'Université de Montréal, vice-doyenne à la recherche et aussi directrice de l'équipe de recherche ARI-Action.
La première question que j'ai posée à nos invités, c'est « Que s'est-il passé en 2023? » Ça a été une année d'extrêmes et de phénomènes assez rares. Pascal Biron était toute désignée pour y répondre.
Alors oui, en fait, il y a des inondations cette année, en 2023, ont débuté donc par celles dans la région de Baie-Saint-Paul, qui est un secteur assez particulier parce que c'est un bassin versant avec des tributaires qui ont des très fortes pentes. Donc, il y a eu une pluie très intense, mais avec une réaction vraiment très rapide dans ces tributaires qui, évidemment, se jettent éventuellement dans la rivière principale qui s'appelle la rivière du Gouffre. Et c'est surtout dans ce contexte-là là, que les enjeux ont peut-être pris de court les élus, la sécurité publique, parce que ça s'est fait très rapidement, avec, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, beaucoup de mobilité. Et c'est un élément important. Là, quand on pense aux inondations, on pense évidemment à l'eau qui déborde des rivières et qui crée des dommages majeurs un peu partout. Mais on oublie parfois aussi que les rivières peuvent être très dynamiques et érodées. Alors, les deux phénomènes se sont produits en même temps là, dans ce secteur-là. Donc, ça a commencé comme ça, un peu sur les chapeaux de roue, je dirais. La suite, il y a quand même eu aussi d'autres cas. Il y a d'ailleurs eu d'autres décès dans la région du Saguenay. Là, c'était plus lié à ce qu'on appelle des glissements de terrain, mais quand même en lien avec des précipitations très intenses. Et bon, des cours d'eau, des petits cours d'eau là, qui deviennent vraiment torrentiels, là, qui érodent complètement les routes, notamment. Donc, tout au long de l'été, incluant en juillet, où au Québec, on s'attend normalement à avoir des niveaux d'eau plutôt bas, on a eu des inondations, des rivières qui ont débordé dans plusieurs municipalités, incluant Montréal, des débordements dans certains quartiers, des secteurs où il y a eu des refoulements d'égouts. Et bon, il y a eu, combiné à ça, plusieurs feux de forêt, comme on le sait. Donc, on est passé d'une température très propice à des feux de forêt avec des températures très chaudes à des événements de précipitations extrêmes. Alors, il y a une combinaison là, des rivières qui débordent en été, ce qui est quand même assez rare, et des municipalités qui ont à gérer le fait que leur système d'égout n'est pas adapté à des intensités de précipitations comme celles qu'on a connues. Et dans ce cas-là, pour des municipalités, c'est vraiment difficile de modifier quoi que ce soit, là, parce que ce sont des tuyaux là, qui ont un certain diamètre et on ne peut pas complètement tout changer ça. Donc, il y a beaucoup de questionnements à y avoir sur comment mieux se préparer à ce genre d'inondation.
Des précipitations extrêmes, des inondations jamais vues. Le discours qu'on entend souvent pour expliquer tout ça, c'est celui des changements climatiques. Ça vaut la peine de s'y attarder. Est-ce que c'est la faute des changements climatiques? Est-ce le cœur du problème? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut réellement leur imputer?
Donc, c'est sûr qu'on accuse souvent les changements climatiques comme un mot qui va expliquer la plupart de nos enjeux vis-à-vis des inondations, mais il faut quand même se rendre compte que l'aménagement du territoire, les décisions qui ont été faites pour organiser les villes et leur métamorphose peuvent aussi expliquer, malheureusement, les enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Donc, bien sûr, les changements climatiques apportent leur lot de difficultés, mais il faut absolument, nous, en tant que chercheurs, en tant qu'experts sur ces questions, réfléchir aux moyens de s'adapter, réfléchir et établir des diagnostics. Donc, on fait beaucoup de retours d'expérience là, avec le ministère de la Sécurité publique pour comprendre les enjeux actuels. Et dans cette compréhension, on voit très bien que la façon dont les villes ont été construites, les routes, les infrastructures ont aussi malheureusement aggravé parfois les situations. On s'est construit près de l'eau, on aime tous l'eau, mais cette eau parfois se retrouve dans nos salons. Et donc, il faut absolument réfléchir et comprendre comment s'adapter.
Il y a un point qui est important à mentionner par rapport au changement climatique, je pense, c'est qu'on a tendance à rapidement oublier les riverains. S'il n'y a pas eu d'inondation récente, on a tendance à oublier, puis on blâme beaucoup, presque uniquement, les changements climatiques. Je reviens à Baie-Saint-Paul comme exemple. La réaction immédiate, ça a été de dire « c'est du jamais vu ». Alors que quand on regarde un peu dans les archives, en fait, dans les années 70, il y avait eu des inondations de plus grande ampleur que ce qu'on a connu cette année. D'où le point apporté par Isabelle Thomas qui est important, là, de voir comment on a aménagé le territoire, parce que c'était su, même à l'époque, les gens étaient vraiment inquiets, disant il faut une commission, il faut examiner ce qui se passe. Mais on a complètement oublié parce qu'il y a eu plusieurs années sans inondations majeures. Donc, c'est dans la nature humaine là, d'un peu effacer les mauvais souvenirs. Alors, d'où l'importance des retours d'expérience. Il faut absolument bien documenter les inondations pour que ce soit clair pour les gens, même s'ils achètent dans quelques années, qu'il y a bel et bien eu un événement. Voici ce qui s'est passé et qu'on ne puisse plus présumer là, que moi, ça fait 5-6 ans que j'habite ici, donc tout va bien. C'est pas comme ça que les rivières fonctionnent. Les inondations dans les rivières peuvent survenir à des fréquences qui vont varier, même si on parle en moyenne une inondation aux 100 ans ou aux 20 ans. On peut avoir, comme on a connu en 2017 et 2019, deux événements presque centenaires, très rapprochés dans le temps, puis ensuite plusieurs années sans événements majeurs. Donc, il faut bien faire attention que de penser que ce n'est pas que les changements climatiques. Il y a toujours eu des inondations et ça va continuer. Là où il y a vraiment une différence qu'on voit, c'est l'intensité des précipitations. Là, oui, on peut vraiment dire que c'est l'effet des changements climatiques.
Les précipitations et leur intensité, c'est attesté. Le reste, c'est difficile d'en faire la simple corrélation. Ce qui est souligné ici, c'est qu'on tolère l'intolérable depuis longtemps, parce qu'on oublie que ça s'est passé avant. Il y a des facteurs préexistants du pourquoi non seulement on est inondé, mais qu'on le paie très cher, tant matériellement qu'humainement que moralement. C'est qu'à quelque part, la table devait être mise depuis longtemps pour la catastrophe. Isabelle Amaral et Isabelle Thomas me permettent d'y voir un peu plus clair.
Le territoire du Québec a été occupé le bord de l'eau. C'est vraiment un contexte historique parce que surtout le fleuve Saint-Laurent était la grande voie de transport. Et donc, toutes les municipalités qui se sont développées à partir de tous ces cours d'eau qui communiquaient avec le fleuve Saint-Laurent, ça nous donne déjà un contexte d'une façon d'habiter le territoire, mais aussi qui est connue comme étant une des caractéristiques culturelles de notre territoire, de notre environnement. Et on le voit partout un peu comme une certaine image de marque du paysage culturel au Québec.
Au début, les maisons près de la rivière étaient aussi des chalets. On l'a vu très bien dans le cas de Montréal, des chalets qui petit à petit ont été transformés. Et d'ailleurs, ces chalets au départ étaient beaucoup sur pilotis, hein, qui petit à petit ont été transformés en maisons traditionnelles à même le sol et pas du tout adaptées finalement aux enjeux que nous voyons aujourd'hui.
Ça explique déjà une partie des choses. C'est comme imbriqué dans notre culture. Pour plusieurs raisons, on semble mal adapté sur notre propre territoire. Isabelle Amaral, d'ailleurs, nous introduit au concept de culture constructive, qui nous permet d'analyser plusieurs aspects de cette maladaptation. Isabelle Thomas et Pascal Biron, à cet égard, ne manquent pas d'exemples.
Bon, d'abord, je trouve que la conversation m'amène vraiment à penser comment les différents savoirs constructifs constituent un effet des cultures. On a transposé des parties de territoire à l'autre et que ces cultures, malgré qu'elles ont apporté, mettons, l'occupation du territoire, en même temps, elles ont apporté aussi des modes de construire qui étaient inadaptés selon les situations. Donc, c'est un ensemble de savoirs et de façons de faire qui donne des conditions de construction du cadre bâti. Donc, ce sont, par exemple, le savoir-faire dans la construction en bois, dans les constructions, par exemple, qui utilisent les fondations en béton, les constructions en bois pour les pieds de plus petite échelle résidentielle, et des constructions plus aussi plus contemporaines, en acier ou en béton armé. Ce sont des ensembles de on peut qualifier le cadre bâti à partir de ces différentes formes de construction, et qu'elles soient aussi au niveau de l'habitation individuelle ou au niveau aussi des grandes infrastructures publiques, comme les plus grands édifices. Donc, nous pouvons étudier les édifices d'un pays ou d'une collectivité, non pas uniquement d'un point de vue historique, mais selon un point de vue comment les constructions sont faites par leurs caractéristiques, par le savoir-faire, les matériaux, les techniques. Et même que je pense que c'est intéressant de réfléchir à partir du point de vue, pas juste d'une fonctionnalité, d'une beauté d'un édifice, mais à partir d'un point de vue de comment c'est fait, d'où est l'origine des matériaux, comment sont-ils employés, quels sont les corps des métiers qui sont impliqués dans ces constructions. Et aujourd'hui, il y a un grand intérêt aussi à construire en bois, parce que le bois est un matériau renouvelable, en plus d'être puits de carbone. Et comment on pourrait penser de la construction en bois dans le cadre des zones inondables? Pour rebondir sur une histoire personnelle, dans mon enfance, j'ai beaucoup entendu parler des histoires d'inondations dans ma ville natale de Recife, connue pour être la Venise brésilienne, avec 70 ponts. Une inondation plusieurs années avant ma naissance, et d'avoir vécu dans des quartiers où on voyait la trace de l'eau. Et la trace de l'eau, souvent à la hauteur d'une personne. Et on savait que l'eau avait monté jusque-là, le bâtiment avait survécu parce qu'il était fait de briques, de béton, donc des matériaux résistants à être mouillés une fois et ensuite séchés, puis continuer à fonctionner d'un point de vue structurel. Mais ce n'est pas les mêmes conditions de ce qu'on a ici au Québec. Donc souvent, les bâtiments sont faits par des matériaux qui ne peuvent pas être récupérés une fois qu'ils sont mouillés. Et donc il faut savoir mieux savoir comment faire une enveloppe résistante, un contact avec l'eau, mais aussi avec toutes les forces dont le bâtiment va être soumis.
Oui, absolument, parce qu'on se rend compte que justement les événements auxquels nous devons réfléchir et nous devons apporter des stratégies, des solutions, imposent aussi une transformation de cette culture qui peut être constructive dans le sens de construire un changement dans les expertises, un changement en termes de vivre finalement en zone inondable et de construire différemment à différentes échelles. Donc c'est aussi très très intéressant de voir comment les apprentissages, les savoirs, les formations doivent s'adapter et finalement transformer leur culture vis-à-vis d'un mode d'habiter en sécurité. Alors il est clair que malheureusement au Québec on a encore des quartiers, des collectivités, des municipalités qui sont aujourd'hui mal adapté. Mal adapté pourquoi? Si on regarde plus à l'échelle régionale, on a des enjeux majeurs d'étalement urbain qui ont été renforcés malheureusement avec la COVID et donc des populations et des citoyens qui ont voulu aller s'installer parfois en zone inondable. On a vu des cas d'achat-vente dans des quartiers qui étaient à risque extrême. Et donc ça pose des problèmes majeurs de maladaptation et aussi d'enjeux vis-à-vis justement des secours, des pompiers qui vont devoir aller leur porter secours alors que forcément ils accentuent finalement leur mise en danger. Autre élément au Québec qui est vraiment un enjeu important, ça va être les écoles. On s'est rendu compte parfois que les zones refuges étaient dans les écoles et que ces écoles elles-mêmes peuvent être en zone inondable. Autre élément important dans nos vivre la maison dans notre mode d'habiter au Québec, on a vraiment l'utilisation des sous-sols. L'utilisation des sous-sols, moi, quand je suis arrivée au Québec Très vite, ça a été un enjeu qui a été nommé, qui était qu'on a beaucoup de chambres d'enfants aménagées dans les sous-sols et dans les zones inondables. Donc ça, forcément, ça entraîne un danger énorme quand on a une rupture de digue ou quand on a une inondation majeure. On s'est rendu compte dans le bris de digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans les retours d'expérience, que heureusement, cet événement a eu lieu un samedi soir à 7 heures. Sinon, ça aurait pu être malheureusement une catastrophe énorme pour le Québec, avec des enjeux de mortalité importants, puisque, encore une fois, quand ça arrive la nuit, ça peut être vraiment catastrophique. On l'a très bien vu, par exemple, en France, avec la tempête Xinxia, dans le quartier de la Faute-sur-Mer. Bon, bah, lui aussi, très, très mal adapté. Et donc, malheureusement, une mortalité importante liée à cet événement. Autre point qui pourrait être résolu, on le pense, c'est vraiment tout le système électrique. Le système électrique est pensé très souvent, encore une fois, dans les sous-sols, alors qu'on peut s'adapter, on le voit en France. On a des systèmes électriques qui s'appellent en parapluie, avec un système qui commence à partir du plafond. Et en plus, ils intègrent des étages indépendants. Ça veut dire qu'un citoyen qui va être inondé peut revenir assez rapidement dans sa maison à l'étage et très vite nettoyer, les autres étages. Mais pour l'instant, au Québec, on n'en est pas là. Donc, on a quand même des enjeux majeurs de maladaptation qu'on doit adresser le plus vite possible. Peut-être que par rapport à la maladaptation, on pourrait aussi... Pascal, je suis sûre que tu pourras... le noter, parce que là, on parle beaucoup de la maladaptation du cadre bâti, mais je pense qu'on a aussi eu une maladaptation vis-à-vis de l'aménagement des bassins versants. Des bassins versants où et on a eu une déforestation, une transformation des milieux humides, une imperméabilisation qui, malheureusement, a engendré qui engendre aujourd'hui un ruissellement et des inondations qui peuvent être encore plus fortes avec des débits plus importants et plus catastrophiques. Donc, c'est sûr qu'il faut aussi bien comprendre du point de vue de l'aménagement des espaces dits naturels, comment repenser le territoire, protéger nos milieux humides, nos marais, redévelopper des forêts avec une végétation qui puisse elle-même être adaptée au changement climatique. Et donc, on voit aussi qu'on a cette échelle régionale qui est nécessaire, puisque malheureusement, on a pu développer une mauvaise adaptation à l'échelle du bassin versant.
Oui, mais je pourrais juste rajouter que l'étalement urbain, dont on parlait un peu plus tôt, a indéniablement un effet sur l'imperméabilisation, donc l'incapacité de l'eau à infiltrer. Donc, ça, c'est un enjeu. Évidemment, ça dépend toujours de l'échelle. C'est un enjeu pour les inondations en milieu urbain. Dépendant de la taille des bassins versants, là, ça ne se reflète pas nécessairement dans les inondations de débordement de rivières. C'est assez souvent plus au niveau des égouts. En fait, le fait qu'à ce moment-là, l'eau rentre directement dans le système d'égout plutôt que de percoler tranquillement par l'infiltration dans les sols et de se retrouver très lentement dans le système de rivière. Donc oui, l'étalement urbain est une autre forme de mésadaptation. Les infrastructures routières sont du ressort des ingénieurs, du génie civil. Jusqu'à tout récemment, tout ce qui concernait la mobilité des rivières était très peu tenu en compte. Souvent, il y avait une analyse là, très locale qui se faisait. Si on refaisait un ponceau, quelques centaines de mètres en amont ou en aval, sans comprendre encore là tout ce qui vient en amont, donc une espèce d'analyse plus systémique à l'échelle du bassin versant. Et ce n'est il y avait jusqu'à un an ou deux, là, aucune analyse vraiment rigoureuse de mobilité. Donc, il y a énormément d'infrastructures routières comme des ponts dont l'empattement, la largeur, finalement, n'est pas adaptée à une rivière qui, en crue, peut non seulement inonder, mais peut beaucoup bouger, donc éroder ses berges. Et ça engendre, on est presque habitué là, à chaque inondation, on prend ça comme si c'était normal que les ponts s'effondrent, les ponceaux, les routes. Mais c'est clair qu'on ne peut pas accepter ça, qu'à chaque fois, il faille tout refaire. Donc, il y a vraiment, du point de vue de l'adaptation des infrastructures routières, là, un enjeu de s'assurer que le rôle des inondations des rivières soit bien tenu en compte.
Après s'être approprié le territoire, après l'avoir occupé, c'est comme si au fil du temps, on s'était découplé d'avec lui. On avait oublié les dangers qu'il représentait, jusqu'à ce qu'il nous le rappelle. et qu'on le réoublie, comme le disait Pascal Biron. D'ailleurs, elle et Isabelle Thomas travaillent très fort sur des solutions basées sur le savoir. Connaître les rivières, connaître les zones inondables et leurs populations, ce serait selon elle le premier pas pour se réadapter. C'est cette connaissance qui va nous mener à des solutions concrètes.
Je voudrais peut-être juste rebondir sur quelque chose d'important qu'Isabelle Thomas a mentionné, la connaissance des aléas. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, il y a un programme au Québec, InfoCru, qui a pour objectif de cartographier, de réviser toute la cartographie des zones inondables. Donc ça, c'est un pas dans la bonne direction, assurément. Il faut comprendre aussi que ces nouvelles cartes-là vont non seulement indiquer qu'on est ou pas dans une zone inondable à risque élevé ou moyen ou faible, mais quelle est la profondeur d'eau. Dans le passé, on n'avait qu'une ligne où on savait qu'on était dans une zone inondable ou pas, mais on ne pouvait pas savoir si on va avoir 20 cm d'eau ou plus d'un mètre d'eau, qui est assurément pas du tout la même chose en termes de type d'adaptation qu'on doit faire dans le cadre bâti. Et là, j'ajouterais aussi le volet mobilité, donc qui en fait partie, mais qui est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas simple de prédire comment une rivière va évoluer, va migrer dans le temps, mais à partir du moment où on a un plan, c'est déjà ça, d'informer non seulement les élus, mais aussi même les citoyens, de leur montrer sur une carte s'ils sont dans une zone à risque de mobilité et ou d'inondabilité. Là, il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent être faites à toutes les échelles. Donc, c'est clairement la clé, la connaissance des aléas. Et je reviens à l'exemple de Baie-Saint-Paul, là, de savoir, par exemple, que des rivières qu'on dit divagantes, c'est des rivières qui sont très dynamiques, où on a des chenaux multiples, sont beaucoup plus sujettes à être mobiles que des rivières plutôt linéaires. Il y avait autour du pont, par exemple, de la 138, là, qui a été démoli par les inondations de mai 2023, il y avait effectivement un parcours de rivières divagantes. Ça aurait pu être quelque chose de noté et on aurait pu donc penser à, avant les inondations, à adapter par exemple une infrastructure routière comme un pont. Tout ça est possible, mais seulement quand on a cette connaissance des aléas. Donc, c'est vraiment la clé.
Et cette connaissance des aléas peut vraiment sauver des vies. Hein, on l'a vu dans le cadre de Baie-Saint-Paul, on a quand même deux pompiers qui malheureusement ont été portés disparus, alors que en anticipant, on peut, et puis aussi en anticipant sur la préparation de ces intervenants si essentiels pour notre sécurité, ben ça peut permettre justement d'assurer finalement la sécurité de tous. Donc ça, c'est un élément totalement fondamental. Et puis, c'est sûr que quand on travaille sur le risque, ben on a l'aléa. Donc Pascal Biron parlait tout à fait de manière judicieuse, mais on a aussi la vulnérabilité. Donc c'est très intéressant quand on travaille ensemble de voir que dans nos diagnostics de risque, non seulement il faut vraiment bien connaître tous ces éléments sur les inondations, mais aussi sur qui va être inondé. Et quand on dit qui va être inondé, c'est vraiment autant est-ce que ce sont des personnes âgées, est-ce qu'il y a des enfants, etc. Et puis par rapport au cadre bâti, quelles sont les infrastructures majeures qui vont être touchées, les écoles, on l'a vu dans plusieurs situations, les hôpitaux, après forcément les ponts qui peuvent engendrer des enjeux d'accessibilité. Donc tous ces éléments-là sont très très importants pour ensuite pouvoir mettre les bases et les piliers d'une reconstruction qui soit une reconstruction résiliente à différentes échelles.
Oui, je pense qu'il faut sans doute distinguer différents environnements et différentes solutions. Quand on parle du milieu urbain qui est fortement affecté par les pluies de très grande intensité, avec un réseau d'égouts qui est incapable d'absorber tout ça, des concepts de ville-éponge, de laisser l'eau s'infiltrer le plus lentement possible, indéniablement, ce sont des concepts porteurs. Il y a des pays comme la Chine qui ont investi des milliards et des milliards depuis 10-15 ans là-dessus, donc c'est pas pour rien. C'est clair que ça, c'est la voie de la solution. Par contre, quand on parle de gens vraiment très proches de rivières qui sont dans des zones où on s'attend à ce qu'il y ait des inondations vraiment à des fréquences très élevées, la délocalisation, comme on l'a vu à la suite des inondations de 2019 notamment, c'est sans doute la meilleure des solutions. Il y a un stress immense pour les gens qui vivent dans ces secteurs-là à chaque année d'anticiper qu'est-ce qui pourrait se passer, surtout au printemps au Québec. Et ne serait-ce que pour ça, le stress sur la santé mentale, je pense que ces gens-là gagneraient à être délocalisés. Il faut aussi bien savoir, est-ce qu'il y a un risque là, d'érosion, parce que là, il y a carrément un danger que le terrain s'effondre ou la maison s'effondre. Et le milieu côtier aussi, on l'a vu là, dans le secteur de Sainte-Luce, par exemple, dans le secteur de Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, quand on a la combinaison du rehaussement du niveau marin et de secteurs là, de grandes tempêtes, je pense qu'il faut vraiment considérer déplacer les gens. Mais là où ce sont des inondations de rivières moins fréquentes, avec des profondeurs moindres, là, ce dont on parlait un peu plus tôt, là, d'adapter le cadre bâti, ça, c'est tout à fait souhaitable. Alors, il faut avoir une panoplie là, dans le jeu là, de cartes, là, vraiment savoir qu'il n'y a pas une solution unique qui va régler tous les problèmes, mais il y a, en ayant la connaissance là, des aléas, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. La cartographie des zones inondables au Québec, assurément, ne concerne qu'un type d'inondation, c'est-à-dire les inondations de rivières là, qui débordent de leur niveau qu'on appelle plein bord. Il y a d'autres, d'autres pays, en Europe notamment, en fait, avec la directive inondation, où beaucoup plus de types d'inondations différentes sont cartographiées. Dans certains cas, ça inclut les inondations qu'on appelle pluviales, donc les intensités fortes de pluie en milieu urbain. C'est plus complexe de les cartographier parce qu'il faut avoir une connaissance aussi de tout ce qui est souterrain, c'est-à-dire les conduites d'égouts. Mais c'est quelque chose qui pourrait se faire. Je sais que certaines municipalités, notamment à Québec, par la communauté métropolitaine de Québec, à ma connaissance, là, ils ont intégré une cartographie qui inclut les égouts. Je ne sais pas exactement où on en est, mais c'est certainement quelque chose qui est bénéfique pour les villes. Il y a d'autres législations où on va intégrer aussi les inondations en milieu côtier, par exemple. Il peut y avoir des temps. On a au Québec, là, on connaît bien les enjeux en Gaspésie, entre autres, sur la côte nord. Il peut y avoir des tempêtes majeures lors de grandes marées. On combine une grande marée, une tempête avec une inondation en rivière. Là, on a vraiment une convergence là, de risques, ce qui est en ce moment pas très bien cartographié. Donc, il y a aussi, je dirais, plusieurs avenues là, qui pourraient être améliorées, mais on a tellement, le chantier est tellement vaste, le territoire est énorme. Alors, la priorité en ce moment, c'est de cartographier les inondations de rivières qui débordent. Mais j'espère que dans le futur, on inclura d'autres types d'inondations et ça devrait inclure aussi ce qui se fait ailleurs, notamment en France, dans d'autres pays européens, des inondations qu'on dit torrentielles dans des secteurs montagneux où ça réagit très, très vite. Et là, il y a des enjeux pour avertir les gens, évacuer en souvent que quelques heures. Alors ça aussi, ça pourrait être amélioré au Québec.
C'était un exemple aussi intéressant. Il y a des villes en Amazonie ou sont dans des quartiers extrêmement inondables, peut-être pas avec des montées d'eau de plusieurs mètres, mais à la fois les maisons sont construites sur pilotis, mais aussi tout l'espace public. Ce sont des trottoirs qui vont communiquer, ce sont des rues. Donc, et en plus, il n'y a pas d'usage de voiture dans ces endroits-là. Donc, il y aurait des exemples vraiment intéressants à aller d'où s'inspirer, même dans des contextes qui sont très pauvres d'un point de vue économique, mais qui fonctionne avec des moyens très simples d'avoir des quartiers très denses, très peuplés, mais très vivants et qui sont tout à fait à l'aise avec des petites montées d'eau et qui continuent à fonctionner dans leur quotidien. Du point de vue de la construction, je pense qu'il y a énormément de travail à faire pour faire une synthèse des meilleures stratégies et mieux connaître celles qui seront les plus adaptables au Québec. Je pense qu'il y a un travail de recherche, de synthèse à être développé et j'espère faire partie du projet. Je pense que l'objectif serait plutôt de rassembler des connaissances, des pratiques, élaborer des guides, et des guides surtout ceux qui peuvent communiquer facilement à un plus grand public. Donc parmi les choses, les changements à apporter, c'est évidemment revoir les façons d'habiter, revoir les façons d'utiliser à la fois les infrastructures publiques comme les écoles et jusqu'à l'habitation individuelle. Et jusqu'à l'échelle de l'habitation individuelle, évidemment, comme dit ma collègue Isabelle Thomas, revoir la façon d'habiter, de commencer à dire en zone inondable, il n'y a plus question de faire des chambres dans les sous-sols. Les sous-sols doivent servir à d'autres fins. Et aussi savoir à quelle hauteur on installe le rez-de-chaussée, doit-on surélever? Et quand on va surélever, qu'en est-il, par exemple, de l'accessibilité universelle quand on va surélever les maisons? Donc, apprendre à connaître ces stratégies-là et peut-être aller jusqu'à des exemples plus extrêmes, d'aller connaître dans différentes cultures, comme celle que je viens d'évoquer, des façons de faire où il y a carrément des quartiers piétons entièrement surélevés. Et là, on pourrait, par exemple, régler le problème de l'accessibilité universelle en permettant la transparence hydraulique pas juste à l'échelle d'une habitation ou d'un bâtiment, mais à l'échelle plutôt d'une communauté. Donc, il y a des façons de faire. Je pense qu'il faut aussi les inventer, les explorer par la pensée créative, par des processus de conception auprès des architectes, des processus de conception en co-création avec les municipalités. Et je ne pense pas que c'est un travail qu'on va régler autour d'une table, mais c'est un processus qu'on va mener.
Donc pour rebondir sur ce que mes collègues Pascal Biron et Isabelle Amaral viennent d'exprimer, il est clair que nous sommes face à une nécessaire adaptation pour apporter de la résilience. La résilience étant vraiment de repenser l'aménagement du territoire différemment et de prendre fait finalement des enjeux pour les résoudre au mieux. C'est évident que la relocalisation parfois va être nécessaire. Et ce qui est très important, c'est qu'elle puisse être pensée avec une démarche de co-construction avec les citoyens pour qu'ils comprennent bien pourquoi, pour les enjeux, les difficultés. C'est sûr qu'avec Pascal, nous avons travaillé sur un projet extrêmement intéressant avec Saint-André-d'Argenteuil, les citoyens de Saint-André-d'Argenteuil. Et c'est évident qu'il faut vraiment accompagner finalement les citoyens, les élus, pour pouvoir s'assurer du succès de projets avec des scénarios pour pouvoir aussi apporter différents types de stratégies, de solutions qui soient vraiment adaptées aux besoins. Donc là, c'est vraiment dans les cas les plus graves où on a une nécessaire transformation assez radicale du territoire où les citoyens devraient pouvoir se relocaliser dans des zones moins à risque. Mais ce qui est très, très important, c'est de vraiment penser la relocalisation en même temps que la scénarisation des nouveaux quartiers. Que les citoyens qui sont délocalisés, comme on s'en est rendu compte aussi avec Sainte-Marie, qu'ils puissent rester quand ils le veulent dans leur municipalité. Et c'est donc leur offrir des possibilités de pouvoir réhabiter leur quartier, d'avoir un accès à l'eau. Et donc, il y a vraiment des façons de repenser ce territoire avec un accès collectif à l'eau ou des droits finalement sur leurs anciennes parcelles, qui sont parfois des parcelles qui ont été données de génération en génération pour qu'ils puissent quand même garder l'importance là de leur patrimoine et de l'acquisition de leur territoire. Ensuite, c'est sûr que quand on peut adapter le bâtiment et le quartier, c'est là que toutes nos expertises entrent en compte avec des nouvelles formations. On parle d'innovation, que ce soit à l'échelle du bâtiment, donc en réaménageant, en utilisant des nouveaux matériaux ou en réutilisant les matériaux existants, mais aussi à l'échelle des quartiers. On parle beaucoup de l'intégration des solutions basées sur la nature à différentes échelles. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Et ce qui est pertinent, c'est qu'en plus, ça améliore notre cadre de vie, notre qualité de vie. On a très, très bien vu pendant la COVID à quel point avoir accès à un parc, avoir accès à de la nature était essentiel. Donc ce qui est aussi important, c'est qu'on parle beaucoup d'inondations, mais il y a quand même des co-bénéfices à développer des quartiers avec une certaine beauté, avec de la qualité. Mais encore une fois, ce qui va être très, très important, et ça fait partie de la résilience, c'est de s'assurer que ces quartiers soient inclusifs, qu'on ne crée pas je vais réutiliser le terme, là, d'éco-gentrification ou d'éco-embourgeoisement avec des aménagements qui soient justes pour un certain type de population. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, un autre élément fondamental, ça va être la formation et l'éducation. On a beaucoup travaillé avec la municipalité de Coaticook, par exemple, et on a développé une BD, une bande dessinée pour les enfants, pour qu'ils comprennent le risque. Et on sait très bien que les enfants, généralement, sont des porteurs de messages très, très importants. Et donc, ça permet de développer cette culture du risque. Mais ensuite, on se rend compte actuellement à quel point la formation des élus, la formation vis-à-vis des promoteurs immobiliers est aussi totalement nécessaire et essentiel pour s'assurer que les projets qui se développent ou qui se redéveloppent soient vraiment adéquats par rapport à ces grands enjeux qu'on vit actuellement.
Les délocalisations, c'est toujours un sujet sensible, voire polémique. Ce qui est important de considérer ici, c'est que c'est une solution parmi d'autres, bien qu'elle puisse s'imposer dans des lieux à trop fort risque. On parle d'une côte qui s'érode ou d'une rivière qui inonde avec des forts débits. Au courant de cette conversation, un terme non abordé jusqu'à maintenant est revenu à plusieurs reprises, la transparence hydraulique. C'est un principe fort de nos jours qui invite à s'adapter de telle manière que l'eau circule librement. Qu'on attende l'inondation, qu'elle fasse partie des possibilités, qu'elle soit presque la bienvenue parce qu'elle ne pourrait plus nous atteindre, elle ne pourrait plus nous faire mal.
Alors, la transparence hydraulique, et je suis sûre que Pascal Biron pourra mieux l'expliquer, mais pour nous, en aménagement du territoire, en architecture, c'est extrêmement intéressant. J'ai mon collègue Éric Daniel Lacombe qui a testé la transparence hydraulique avec un projet sur lequel on se concentre et qu'on prend beaucoup en exemple, qui est le projet de Matra en France, dans la municipalité de Romorantin, où un quartier a été reconstruit en zone inondable constructible en étant pensé en termes de transparence hydraulique. Donc, plutôt que de se battre contre l'eau et d'essayer de se protéger de l'eau, l'idée est d'aménager le territoire, d'aménager le cadre bâti pour que l'eau finalement s'écoule dans le quartier. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir faire ce type d'aménagement quand on a des embâcles, quand on a des débits comme la rivière Chaudière. Il faut vraiment bien comprendre, encore une fois, les caractéristiques de l'aléa, les caractéristiques de territoire, mais ce sont des superbes opportunités qu'on pourrait mettre en œuvre sur le territoire québécois.
Je veux juste faire une petite clarification du côté de la transparence hydraulique. Il y a cet élément-là mentionné par Isabelle Thomas, mais il y a aussi dans la production de cartes de zones inondables de présumer qu'il n'y a pas, que les digues, par exemple, ne sont pas là, donc d'avoir déjà le modèle qui nous dit que se passerait-il sans digue et aussi que se passerait-il si il y avait une brèche dans une digue, par exemple, ou que le niveau dépasse. Donc, ça fait partie du concept de transparence hydraulique, d'avoir des cartes de zones inondables qui incluent le fait que ces digues-là pourraient céder ou pourraient être dépassées.
Il y a des normes pour construire dans les zones inondables qui sont utilisées aux États-Unis depuis environ 10 ans déjà. Elles ont été faites en 2012 par l'agence fédérale qui s'appelle le Federal Emergency Management Agency, donc FEMA. Et ces normes-là incitent des façons de faire où le bâtiment même est fait en sorte de permettre la transparence hydraulique. Donc, lors d'une montée des eaux, le bâtiment est soumis pas juste à l'humidité qui va détériorer le matériau, mais à des forces vraiment très fortes qui vont agir dans la structure, qui vont le désancrer du sol et qui vont en quelque sorte déformer les structures bâties et qui font en sorte que le bâtiment soit irrécupérable. Donc, ces normes préconisent des façons de faire, de permettre le passage des eaux afin d'annuler l'effet de ces forces latérales, surtout latérales, qui vont agir dans le cadre de montée des eaux. Et il y a un exemple au Canada d'un bâtiment qui a même reçu un prix, une médaille du gouverneur général. C'est un pavillon en forêt à Winnipeg par... Mettez-moi de bien vous voir, c'est par Public City Architecture Incorporation. Et ce pavillon, il a été fait selon les normes américaines, FEMA. Et donc, il est adaptable à une montée éventuelle des eaux dans cette région d'un parc naturel autour de Winnipeg. Donc, ce sont des normes qui seront tout à fait intéressantes de vouloir développer ici, afin qu'on puisse développer une nouvelle culture constructive et des façons de faire espérons, puisse se répandre de façon quasi naturelle dans le territoire.
Je voudrais aussi rebondir vis-à-vis de la FEMA, parce que c'est sûr que les États-Unis ont eu leur lot de catastrophes, d'inondations, de l'ouragan Katrina jusqu'aux ouragans plus récents en Floride. Et ça a entraîné quand même une réflexion extrêmement poussée vis-à-vis des normes, des règlements, de la reconstruction en zone inondable, des maisons qui sont sujettes à des inondations sévères de manière répétitive. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que non seulement ils ont développé une connaissance très poussée de l'aléa et de la vulnérabilité, mais ils ont aussi développé des moyens, des programmes pour permettre aux collectivités qui intègrent ces cartes et ce savoir pour qu'elles se redéveloppent, et même les citoyens. Donc, ce qui est vraiment important, c'est, oui, de connaître et de savoir ce qui se passe vis-à-vis des événements, des changements climatiques, de notre aménagement du territoire, mais après, c'est de se donner collectivement au Québec les moyens de reconstruire et d'aider, d'accompagner les municipalités et les personnes dans une réadaptation adéquate de leur habitation. Et ça, c'est tout à fait possible. Alors, on a les exemples, par exemple, aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, du Resilient Gentilly District, qui a récupéré une subvention, je pense, de 141 millions pour développer différents types, justement, d'outils à différentes échelles, intégrant des jardins de pluie, des bassins de rétention, des corridors verts et bleus, etc. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir qu'ils allient dans ces stratégies tout l'apprentissage, même pour les écoliers. Hein. Donc, il y a des travaux dans les écoles pour expliquer aux enfants comment perméabiliser la parcelle de leur maison, etc. Et puis ensuite, ce qui est vraiment aussi très utile, c'est qu'au niveau des citoyens, les citoyens qui ont demandé à répétition d'être dédommagés pour pouvoir vivre finalement dans une maison qui est en zone inondable parfois sévère, eh bien, ils peuvent avoir accès à des subventions pour mettre leur maison sur pilotis, pour adapter les matériaux de leur cadre construit. Et donc, ça permet d'être gagnant à différentes échelles. Ça permet d'être gagnant pour le citoyen qui peut s'adapter quand il n'est pas dans une zone à risque trop sévère. Ensuite, forcément, la municipalité garde son citoyen dans son quartier et donc elle garde ces fameux ces taxes fiscales qui sont si importantes pour qu'elle puisse ensuite offrir à sa ville des services de qualité. Et puis, ça permet aussi d'avoir une adaptation du cadre bâti, éventuellement un paysagement de la parcelle. Et finalement une adaptation tout à fait appropriée de cet espace, du cadre bâti au quartier. Alors ce qui est très très important, c'est aussi de s'assurer dans ce cas-là de pouvoir aider tous les citoyens, d'inclure les questions d'inclusion, d'équité, parce que forcément ça va aussi entraîner peut-être une hausse des coûts des maisons et on ne voudrait surtout pas générer de l'éco-gentrification, de l'éco-embourgeoisement dans ces quartiers.
C'est sur cette note que Pascal Biron, Isabelle Thomas, Isabelle Amaral et moi, nous nous sommes laissés. Résumer cette entrevue serait trop long, mais on peut en retenir quelques éléments. Les inondations encourues en 2023 sont à la fois des manifestations des changements climatiques, mais aussi des problèmes qui, à un moment ou à un autre, seraient survenus. C'est le prix que l'on paie encore d'erreurs du passé, mais aussi d'erreurs du présent, parce qu'on les répète souvent, candidement, obstinément. Connaître le territoire, les rivières, les populations, ça c'est le premier pas. Cette connaissance-là, ensuite, il faut la communiquer. Et ensuite, on peut appliquer des principes forts, comme la transparence hydraulique, entre autres. Ce balado est une production d'Ariaction, enregistré gracieusement dans les studios de CISM. On se dit à la prochaine en 2024.